Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat au Sénégal où Guy Marius Sanien, député du PASTEF, le parti au pouvoir, demande la mise en accusation pour haute trahison de Macky Sall, l'ancien président sénégalais, en raison de la gestion des finances publiques lorsqu'il était au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Que vous inspire l'initiative du député Guy Marius Sanien? Macky Sall doit-il s'expliquer sur sa gestion du pouvoir devant la justice sénégalaise? Vos réactions, commentaires et points de vue nous intéressent, on vous attend au standard. 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreuses réactions que vous nous avez transmises via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions. Le 17 avril 1825, il y a tout juste 200 ans, le roi Charles X signait une ordonnance reconnaissant l'indépendance d'Haïti. Une liberté qui aura un prix, car en contrepartie, le souverain français demande une indemnité de 150 millions de francs afin d'indemniser les anciens propriétaires esclavagistes. Après avoir lutté pour son indépendance, Haïti a dû payer une dette qui, selon certains historiens, a considérablement freiné le développement de la première république noire et libre du monde. La rançon versée par Haïti à la France continue de faire débat, de nombreuses voix s'élèvent et demandent des réparations. Ce jeudi, Emmanuel Macron, le président français, devrait faire un certain nombre d'annonces à ce sujet. Vous avez été très nombreux à réagir au sujet de cette dette haïtienne et pour répondre à vos questions et dialoguer avec vous, nous sommes en compagnie ce matin d'un invité, c'est Jean-Marie Théoda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département de géographie à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Merci d'être avec nous. Le président français devrait donc faire un certain nombre de déclarations à l'occasion de ce bicentenaire de la dette d'Haïti. Jean-Marie Théoda, attendez-vous quelque chose de particulier de la part du président français ?
Je pense que l'occasion est si solennelle que Emmanuel Macron aurait tort de la rater. Et on attend du président de la République qu'il soit à la hauteur des promesses déjà formulées par différents gouvernements, notamment par le président Hollande, qui en 2015 a dit qu'il se sentait investi quand même d'une dette vis-à-vis d'Haïti, qu'il entrait à Port-au-Prince pour solder cette dette. Et je pense qu'il est important que 200 ans après l'instauration des relations officielles entre les deux pays, important de faire un inventaire, de voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et la dette en particulier constitue un point d'achoppement.
De nombreuses questions d'auditeurs nous attendent au standard. Bonjour Jimmy, vous êtes à Bounia dans l'Est de la RDC.
Bonjour Monsieur Dosso, bonjour à l'invité Jean-Marie Théoda.
Alors vous souhaitiez en savoir davantage sur d'éventuelles réparations, Jimmy.
Effectivement. Haïti a contracté au moment de son indépendance, d'accéder à son indépendance. Allô?
Oui, on vous entend, Jimmy. Poursuivez.
A contracté une dette. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce qu'il pourrait avoir des réparations de l'État français? Et la seconde et dernière question, quelle forme pourrait prendre ces réparations?
Alors, question adressée à notre invité, Jean-Marie Théoda. La question des réparations, selon Jimmy, il souhaite savoir quelle forme pourraient avoir ces réparations si jamais elles devaient être reconnues aujourd'hui.
Merci à Jimmy de poser cette question. C'est une question à double détente. Il évoque une dette que Haïti a dû contracter pour pouvoir, en fait, satisfaire les exigences d'indemnisation. C'est pour ça que l'on parle souvent de double dette. Parce que la somme de 150 millions de francs or n'étant pas disponible dans la caisse de l'État, il a fallu que Haïti emprunte auprès de banques françaises pour pouvoir satisfaire les exigences de cette indemnisation. Donc nous parlons de double dette et c'est pour ça qu'il a fallu si longtemps pour éteindre cette dette. Alors quelle forme pourrait prendre cette réparation? Je pense que maintenant il appartient aux hommes d'État, aussi bien haïtiens que français, de discuter et cela peut prendre du temps, cela ne peut pas se faire à coup de yaka, à coup de faucon. Il faut des spécialistes, il faut des gens véritablement outillés pour comprendre quel a été l'impact dans la longue durée de ce lourd fardeau et voir comment trouver réparation pour ces dommages.
Pensez-vous que l'actuel président français est en ce moment en position pour parler de réparation et faire des déclarations à ce sujet sans risquer de brusquer une partie de son camp politique?
On dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et parfois, la situation fait l'homme. Et si Macron pouvait, à l'occasion du bicentenaire des relations avec la Première République noire, comme vous venez de le dire, inscrire l'histoire de la France sur de nouveaux rails avec non seulement Haïti, mais avec l'ensemble du monde afro-descendant, ce serait véritablement un immense service rendu à la nation française.
Nous accueillons désormais Yosun à Parakou, au Bénin. Yosun, bonjour.
Bonjour Namori, bonjour à votre invité.
Alors, quelle est votre question, Yosun?
Alors, 200 ans après la dette haïtienne, comment se porte l'économie du pays actuellement? Pourquoi Haïti continue de sombrer dans la pauvreté?
Jean-Marie Théodin.
Alors, lorsque l'on pose ainsi la question, la réponse implicite, c'est que la pauvreté haïtienne est directement causée par cette dette odieuse, comme on dit souvent. Ce serait aller trop vite en besogne et ce serait dédouaner les responsables haïtiens de toutes les forfaitures, de toutes les défaillances, de tous les manquements qu'il nous faudra quand même pointer du doigt à un moment donné ou à un autre.
Donc, si je comprends ce que vous dites, hein, la dette y est pour quelque chose, mais pas seulement. Il y a également une gestion par les dirigeants haïtiens qui y est également pour quelque chose.
Il y a notre responsabilité collective. Ce n'est peut-être pas le moment, si vous voulez, d'un point de vue strictement stratégique, ce n'est pas le moment de faire des reproches aux dirigeants haïtiens, puisqu'il s'agit de faire front pour obtenir restitution de cette dette. Mais ce que nous savons, c'est que, pour répondre à notre ami, la déconfiture de l'économie haïtienne est un phénomène, un processus structurel qui a des facteurs endogènes, tels que, par exemple, la difficulté de trouver un modus vivendi entre les anciens esclaves et les nouveaux propriétaires qui entendent reconduire une économie de plantation alors que les anciens esclaves rêvent plutôt d'une économie vivrière avec peut-être une petite fenêtre sur le marché. Donc disons qu'il y a un contrat social haïtien qui a globalement échoué et qui a comme contrepartie sur le plan économique un divorce profond entre ce qu'on pourrait appeler le capital et d'autre part, la force de travail. Les Haïtiens préfèrent partir travailler à l'étranger plutôt que de faire un travail salarié dans leur propre pays.
Alors vous avez parlé de contrat social haïtien, c'est un peu le sens de la question de Mamadou à Laval. Bonjour Mamadou.
Bonjour Namori, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la radio qui nous parle chaque matin, qui nous donne la parole.
Alors votre question ne se situe pas forcément dans le passé avec cette dette, hein, mais plutôt dans la situation actuelle en Haïti. Je vous laisse poser votre question à notre invité Jean-Marie Théodin.
Alors, qu'est-ce qui a permis aux gangs de gagner autant de pouvoir en Haïti?
Alors vous faites référence à la situation sécuritaire actuellement sur l'île qui est malheureusement hein, gangrénée par les gangs dans différentes parties du territoire.
Merci pour cette question qui nous remet de plein pied dans l'actualité. Pour faire un état des lieux, on considère qu'aujourd'hui, 85% de la capitale, une population de 3 millions d'habitants quand même, est occupée par les activités des gangsters. On considère qu'il y a plusieurs centaines de gangs opérant dans la région métropolitaine, que plus de la moitié des gangsters sont en fait des enfants âgés de moins de 16 ans, avec des armes de guerre, qui entrent dans le pays comme dans une passoire, en provenance notamment des États-Unis. Il y a, pour l'année écoulée, plus de 5000 personnes assassinées soit par des balles perdues, soit par des activités directes des gangsters. Donc Haïti est précipité dans un trou noir que l'on ne peut comprendre qu'en faisant une sorte de zoom arrière, et voir que ce pays se trouve à mi-chemin entre la Colombie et la Floride, entre le premier pays producteur de cocaïne au monde et le premier marché de consommation de l'autre côté. Eh bien, les gangsters, par une sorte de complicité internationale, parce que c'est la face cachée de la mondialisation. La mondialisation, ce n'est pas seulement la mondialisation financière par les banques, par les assurances, par les entreprises qui ont pignon sur rue, mais c'est aussi la main, la main cachée des mafias, la main cachée de l'argent sale. Et ces gens ont décidé de faire d'Haïti une passoire vers le marché nord-américain. Et c'est pour cela que, depuis pratiquement plus de 3 ans, nous n'avons aucune autorité élue dans ce pays. Donc, le chaos haïtien, chaos institutionnel, chaos économique, chaos sur le plan social, est un chaos lucratif parce qu'il permet à certains d'avoir des activités extrêmement lucratives.
Mamadou, est-ce qu'on a pu répondre le plus convenablement possible à vos interrogations ?
Oui, j'ai une petite question aussi, Namori Doussou, qui me tient beaucoup.
Alors, comment rapidement, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard. Comment ?
Comment parvient-il à se financer, à s'armer, ces gangs?
Alors, en quelques mots, Jean-Marie Théodin.
En deux mots, les gangs se trouvent leur financement. Il y a deux sources principales. D'un côté, le trafic de la drogue, comme je viens de le dire. Ce sont des passeurs de cocaïne. D'autre part, en occupant les principales artères de la capitale, les principaux axes de communication, ils rançonnent les passages et cela fait beaucoup d'argent.
Merci Mamadou pour votre appel et votre question. Nous allons passer la parole à Richard qui est à Maroua. Bonjour Richard.
Bonjour Namori Doso et bonjour à vos fidèles à travers le monde.
Alors Jean-Marie Théoda attend vos questions.
Et mes questions sont les suivantes. Quelle est la marge de manœuvre du Premier ministre dans la résolution de la crise haïtienne? Est-ce qu'il y pourrait avoir des négociations entre les gangs et le Conseil de transition?
Alors, c'est une marge de manœuvre qui ressemble à une ligne de crête où, d'un côté, le pays n'a plus les moyens de défendre sa sécurité, son autonomie. C'est-à-dire, nous n'avons plus d'armée et la police est en quantité insuffisante et insuffisamment armée. Et de l'autre, aucun grand pays n'a envie véritablement de venir au secours d'Haïti.
Donc, comment est-ce que vous expliquez cette situation, justement? Parce qu'on voit un investissement de la communauté internationale dans certaines parties du monde. Or, on a l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Haïti est dans un trou noir.
Haïti fait peur. Parce qu'on sait que c'est à la fois une boîte de Pandore. Dès que l'on soulève le couvercle, on se rend compte que le problème est infini. Et personne n'a envie de prendre en charge la situation haïtienne, et nous n'avons pas les moyens de nous en sortir tout seuls. Et comment trouver maintenant une issue à cela? Il faut d'abord rétablir la situation sécuritaire. Et pour répondre à la question de notre auditeur, les gangs trouvent, par le racket que je viens d'évoquer tout à l'heure, le moyen de se procurer des armes qui viennent des États-Unis. On sait que les États-Unis sont un pays où n'importe qui peut acheter n'importe quoi, y compris à distance et en quantité, et les exporter à travers le monde. Et comme nous n'avons pas un service de douane assez vigilant, ni assez propre pour pouvoir éviter ce genre d'introduction d'armes létales dans le pays, nous sommes une société noyée d'armes de guerre. On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation dans le pays. Et les gangsters sont mieux armés que la police.
Et selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait inverser cette situation? Parce qu'on a vu que des policiers kényans venus du continent africain sont venus, d'une certaine manière, tenter de rétablir l'ordre sur l'île. Manifestement, les fruits ne sont pas encore au rendez-vous. Qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance et faire en sorte que les gangs reculent et que le pouvoir civil reprenne toute sa place sur l'île?
Il faudrait un miracle. Mais malheureusement, il n'y a pas de miracle en géopolitique, il n'y a pas de miracle en politique. Très concrètement, il faudrait que, au niveau de l'ONU, ou en tout cas au niveau international, une véritable alliance se constitue pour éliminer les quelques centaines de bandits qui tiennent en fait à la gorge la population haïtienne. Il suffirait de peu de moyens pour les éliminer.
Alors c'est justement le sens de la question d'Alpha qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Alpha.
Bonjour la radio du monde. Salut l'ensemble de vos travailleurs sans oublier notre éminent invité.
Alors, Alpha, on écoute votre question qui porte notamment sur la situation et l'engagement de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti.
Ok. Quelles dispositions sont prises par la communauté internationale face à cette grave crise humanitaire et sécuritaire ?
Jean-Marie Théodat.
Merci beaucoup, Alpha, pour cette empathie exprimée vis-à-vis d'Haïti. Et je dois la vérité de reconnaître que ce sont des Kenyans qui sont seuls sur le terrain actuellement avec nous en Haïti. Il y a près de 700 policiers kenyans, mais ce ne sont que des policiers avec des armes de maintien de l'ordre qui ne font pas le poids par rapport aux armes de guerre dont disposent les bandits en face. Et pour revenir un peu à la question d'avant, je pense que ce serait le moment pour l'Afrique d'affirmer sa solidarité avec un pays qui est un pays fondé sur des valeurs africaines.
La première république noire et libre.
On peut dire la première république africaine des temps modernes, parce que c'est ainsi que nous nous sommes toujours projetés dans l'histoire, avec la volonté de faire de notre négritude une valeur d'humanité universelle. Et la question haïtienne n'est pas une question limitée à 27 750 km², mais l'honneur d'Haïti, c'est l'honneur de toute l'Afrique, c'est l'honneur de tous les Afro-descendants.
Alors, il nous reste encore quelques minutes dans cette première partie d'appel sur l'actualité. Nous allons aller au Cameroun, à Douala, où l'on rejoint Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour.
Vous avez des questions au sujet de la situation en Haïti, on vous écoute.
Oui. Avec la crise, beaucoup de Haïtiens migrent vers les pays voisins, notamment la République dominicaine. Quelles sont les relations entre les deux pays ?
Jean-Marie Théodat.
Merci pour cette question qui permet, là encore, d'évoquer ce que j'appelle la solitude existentielle d'Haïti. Notre plus proche voisin, la République dominicaine, je rappelle que Haïti partage avec la République dominicaine l'île d'Hispaniola. Nous avons 27 750 km², les Dominicains 48 000 km², donc un pays sensiblement plus grand que le nôtre, plus riche aussi, avec un produit intérieur brut 10 fois supérieur à celui d'Haïti, alors que nous avons une population équivalente, 12 millions d'habitants de part et d'autre. Eh bien, la tradition de la migration haïtienne vers la République dominicaine est aujourd'hui centenaire. Ça fait plus de 100 ans que les Haïtiens vont traditionnellement couper la canne en République dominicaine. Mais depuis les années 2000, nous assistons à une nouvelle forme de migration. Ce sont cette fois-ci des Haïtiens formés, des jeunes, qui vont en République dominicaine dans un premier temps pour faire leurs études et après qui s'y installent parce qu'ils trouvent de meilleures conditions de travail. Il y a beaucoup d'Haïtiens aussi dans les travaux publics, dans la récolte de la canne à sucre qui continue d'être un élément important et, disons, dans tous les travaux de force que les Dominicains ne veulent plus faire parce qu'il y a une certaine élévation du niveau de vie dans ce pays. Eh bien, disons que les Haïtiens ne sont pas vraiment les bienvenus.
Enfin, Jean-Marie Théodat, pour conclure, d'un point de vue personnel, êtes-vous toujours optimiste quant au développement d'Haïti ou faites-vous preuve d'un certain réalisme, pour tout dire ?
Je pense que optimisme et réalisme vont de pair. On devient optimiste à partir du moment que l'on a une claire conscience de la réalité. Et cette claire conscience, la géographie permet de l'avoir. Nous pouvons avoir une expertise. Et toutes les expertises que j'ai pu lire donnent de ce pays l'image d'un pays avec un avenir extraordinaire, avec une population jeune, avec 1700 km de côte dont les richesses sont à peine explorées, avec un sous-sol extrêmement riche et surtout avec un roman national qui est un roman national héroïque. Les Haïtiens ont du courage, ont le sens de l'effort et moi j'ai espoir que ce pays se remette un jour sur ses deux jambes.
Jean-Marie Théodat, professeur à l'Université d'État d'Haïti, directeur du département de géographie à l'Université Panthéon-Sorbonne. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs à l'occasion du bicentenaire de l'octroi de l'indépendance à Haïti vis-à-vis de la France. Une liberté conditionnée au paiement d'une lourde indemnité qui a entravé, selon vous et certains experts, le développement de la première république noire et libre du monde. Restez avec nous, juste après le journal, le débat d'appel sur l'actualité consacré à la situation politique au Sénégal. Legal.